Vous êtes sur RTL.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
À 8h sur RTL, c'est Agnès Bonfillon qui vous dit tout et qui vous informe. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Avec à la une ce samedi, le retour des gilets jaunes dans la rue.
2 ans après le début du mouvement, il y a eu une pause forcée cet été à cause du Covid, mais aussi un essoufflement au fil des mois. Ce nouvel appel à la mobilisation va-t-il réunir du monde ? Cela fait plusieurs semaines que les participants s'organisent, notamment sur les réseaux sociaux, pour se retrouver un peu partout en France. Thomas Proutot, un petit air de déjà-vu.
En effet, des appels à manifester ont été lancés dans toutes les grandes villes françaises et à Paris, plusieurs cortèges ont été annoncés, certains autorisés par la préfecture, dont celui qui doit partir de la place de la Bourse ce matin, et d'autres d'ores et déjà interdits, notamment 2 manifestations qui devaient passer par les Champs-Élysées. La préfecture de police attend plusieurs milliers de personnes, dont plusieurs centaines de radicaux. 15 compagnies de CRS ont été appelées en renfort. La crainte principale des autorités, à Paris comme en région, ce sont les actions spontanées hors cortège, plus difficiles à canaliser. Le préfet de Haute-Garonne a choisi pour sa part d'interdire la manifestation de Toulouse au vu de la situation sanitaire. Une des inconnues des rassemblements d'aujourd'hui, censée relancer les gilets jaunes après une démobilisation massive, sera aussi la présence d'anti-masques décidés à contester les mesures barrières imposées par le gouvernement.
Thomas Proutot pour RTL. Plusieurs secteurs de la capitale sont interdits aux manifestations et plusieurs lignes de métro, aussi renseignez-vous, sont fermées dès ce matin. C'est à partir d'aujourd'hui que le maintien de l'ordre est soumis à de nouvelles règles. Les tirs de LBD, par exemple. Avant d'utiliser cette arme, désormais, le policier devra obtenir l'aval d'un superviseur qui dira si, oui ou non, le moyen de riposte est adapté.
L'approche globale avant des mesures locales. Hier, lors de son allocution, Jean Castex a surtout appelé à la vigilance de chacun.
Oui, on parle coronavirus, évidemment. Le Premier ministre parle de dégradation manifeste. En 24 heures, 40 personnes sont mortes de ce virus. La balle est désormais dans le camp des préfets qui vont devoir prendre des décisions ces 2 prochains jours, en fonction de la situation dans leur département. 42 d'entre eux sont en rouge et dans certains endroits gâtelandais, ça vire à l'écarlate.
Oui, le Premier ministre a pointé 3 zones où la situation est la plus inquiétante, la Guadeloupe et les 2 métropoles de Marseille et Bordeaux. Dans ces 3 territoires, les contaminations augmentent très rapidement. Pour le comprendre, il suffit de regarder ce qu'on appelle le taux d'incidence. La moyenne nationale est de 70 malades du Covid pour 100 000 habitants, 70, alors qu'à Marseille, c'est 280 nouveaux cas pour 100 000 habitants, 272 à Bordeaux, beaucoup plus donc que dans le reste du pays. Et puis en Guadeloupe, c'est la situation dans les hôpitaux qui pousse le gouvernement à tirer la sonnette d'alarme. Le CHU de Pointe-à-Pitre est au bord de la saturation, selon son directeur. 50 malades hospitalisés contre 4 il y a seulement 3 semaines. Jean Castex demande au préfet de ces 3 zones de plancher tout le week-end. Ils doivent lui proposer de nouvelles mesures sanitaires pour endiguer la progression de l'épidémie. Le Premier ministre veut ses propositions sur la table d'ici lundi.
Agathe Landais pour RTL. Parmi les annonces concrètes, le délai d'isolement est réduit de 14 à 7 jours. Les tests de dépistage vont être réservés en priorité aux personnes présentant des symptômes, aux cas contacts et au personnel soignant. Objectif, désengorger les laboratoires, littéralement pris d'assaut. On le disait, il va falloir attendre lundi pour en savoir plus, sachant que les restrictions actuelles continuent. Cela fait 6 mois désormais que les discothèques sont fermées, par exemple. Idem pour les thés dansants, les bals, ça commence à faire long pour les habitués. Plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté hier à Arras devant la préfecture du Pas-de-Calais, Franck Hontson.
Ces accordéonistes qui entonnent leurs airs préférés commencent à leur manquer. Et surtout l'ambiance de ces bals. Odette et ses amis aspirent à retrouver ces rendez-vous du week-end.
Ça nous manque trop. Nous, on y allait tous les dimanches, il faut que ça revienne. Sinon, on vit plus. On en a besoin. Surtout quand on vit seul, on est bien content d'aller danser, voir beaucoup de monde. Du moment qu'on garde les masques, qu'on se lave les mains et tout, il n'y a pas de souci. Ça nous rend encore plus malade parce qu'on ne peut rien faire. Nous, ce qu'on veut, c'est reprendre l'été dansant.
Fernand, qui est aussi supporter lensois, ne comprend pas que d'autres rassemblements soit plus favorisé.
Quand on voit qu'un stade 5000 personnes, c'est pas normal. Et nous, pour 100 personnes, on nous ferme la porte au nez, c'est pas possible. J'ai vécu les discothèques étant jeune, maintenant c'est l'été dansant.
Et pour les artistes et professionnels dans ces campagnes, le secteur souffre. Jean-Charles Oufnagel est directeur d'établissement.
Un truc de fou. On sait très bien qu'il y a un virus qui circule et qu'on est 20 ans ou 70 ans, il faut évidemment se protéger. Mais nous, on est capable d'avoir une protection. Les gens d'un certain âge sont responsables. Nous, on sait faire, on sait cadrer la clientèle.
En attendant le retour des beaux jours, ces amateurs se consolent en dansant à la maison.
Le reportage de Franck Conson pour RTL.
8h05, très bon réveil à vous tous. La suite du journal d'Agnès Bonfillon dans un instant. Charlie Hebdo, de nouveau la cible de menaces. Al-Qaïda reproche au journal satirique d'avoir réédité les caricatures du prophète Mahomet. On en reparle dans un instant.
RTL Matin. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et à 8h07, la suite du journal d'Agnès Bonfillon avec donc Al-Qaïda qui menace une nouvelle fois Charlie Hebdo.
L'hebdomadaire avait choisi de republier les fameuses caricatures du prophète Mahomet la semaine dernière, le jour même de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. Depuis, Aurélia Valarié, ce sont deux messages qui ont été adressés au journal satirique.
Oui, c'est une information donnée par un groupe américain spécialisé en organisation djihadiste qui a analysé et confirmé ces deux messages de menace contre Charlie Hebdo. Le premier mis en ligne avant le 2 septembre date de l'ouverture du procès des attentats du journal et de l'hypercacher. Et puis le second message, publié hier, date symbolique du 11 septembre. Dans ce texte, on peut lire notamment cette phrase « Le raid contre Charlie Hebdo n'était pas un incident ponctuel. Alors, réelle menace ou non, selon la spécialiste Anne Guticelli, fondatrice de Terrorisque, c'est une information à prendre au sérieux, mais elle précise qu'Al-Qaïda a plus tendance à revendiquer ses attaques qu'à les annoncer. »
Je dirais que le seul fait d'appeler à cette action peut générer des réactions de la part d'individus plus ou moins en connexion avec cette organisation au niveau central ou au niveau de ses filiales dans telle ou telle région. Si c'était dans un cas de figure d'une opération qui aurait été préparée, elle n'aurait pas été annoncée comme une menace d'action en amont.
Pour la spécialiste, ce serait donc plus de la propagande. Néanmoins, pour les autorités, pas question de baisser la garde. La surveillance autour de Charlie Hebdo reste à nouveau très élevée.
Merci beaucoup pour ces informations, Aurélia Valarié. Aux États-Unis, au moins 15 morts, plus de 500 000 personnes évacuées et 20 000 pompiers mobilisés. Les feux s'étendent de la frontière canadienne à la frontière mexicaine. Alors pas en continu, mais quand même, c'est du jamais vu sur la côte ouest. Retour en France avec le Conseil d'État qui vole au secours des tourterelles des bois. La plus haute instance administrative suspend la chasse de cet oiseau dont la population s'est littéralement effondrée en Europe. Moins 80% en 40 ans.
Le Tour de France cycliste, Agnès, c'est terminé pour Romain Bardet.
Après une chute lors de la 13e étape hier, diagnostic sans appel dans la soirée. Il souffre d'une commotion cérébrale, Romain Bardet. Impossible pour lui de continuer. C'est le premier abandon de sa carrière sur le Tour de France. Au classement, Roglic, toujours maillot jaune, suivi de près par son compatriote Patriote Pogacar, retour sur cette journée slovène.
RTL Tour de France 2020.
Le carnet de route de Laurent Jalabert.
Avec Christophe Paco.
Bonjour Laurent Jalabert.
Bonjour.
Aux 6 premières places ce matin du classement général, on trouve 2 Slovènes tout devant, 4 Colombiens. Les Slovènes vont-ils pouvoir dominer ce tour jusqu'au bout ?
Oh, en tout cas, ils sont en train de le faire. Les Slovènes dominent le Tour. Ça a commencé dans les Pyrénées et ça continue dans le Massif central. Avec, c'est vrai, dans les Pyrénées, l'éclosion aux yeux du grand public d'un Tadej Pogacar, 21 ans à peine, que l'on connaît dans le milieu cycliste, mais qui se révèle sur ce Tour un très très haut niveau. C'est une pépite, ce garçon, et il marche sur les traces du maillot jaune Primoz Roglic, qui a gagné l'année passée le Tour d'Espagne. Un Tour d'Espagne d'ailleurs où Pogacar était troisième. Il est sur ce Tour de France en train de disputer son deuxième grand Tour. 3 semaines de course, ça lui fait pas peur.
Tout autant surprenant de retrouver 4 Colombiens juste derrière les 2 Slovènes.
La Colombie, c'est une grande nation du cyclisme. C'est pas nouveau, ça fait quelques années que ça dure. Bernal, l'an dernier, a remporté pour la première fois dans l'histoire le Tour de France pour un Colombien. Eh bien, ils sont, c'est vrai, sur la montagne, c'est pas nouveau. À leur place, ils sont particulièrement brillants. Et sur 3 semaines, de plus en plus, on les sent motivés et déterminés pour amener ce maillot jaune dans le pays. Ils sont là en embuscade et la dernière semaine, elle sera très 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 montagneuse.
Merci Laurent Jalabert. On se retrouve à 10h pour l'étape du jour. Bonne journée.
Merci.
Laurent Jalabert avec Christophe Paco sur le Tour de France pour RTL. L'affiche de la finale de l'US Open, ça y est, on la connaît. Dominic Thiem, 3e mondial, rejoint l'Allemand Alexander Zverev. L'Autrichien a éliminé cette nuit le Russe Medvedev. 6-2, 7-6, 7-6. Le foot est la 3e journée de Ligue 1. Match nul, 0 partout entre Bordeaux et Lyon. La suite aujourd'hui au programme, Montpellier-Nice à 17h et Saint-Etienne-Strasbourg. Ce sera à 21h. Match à vivre bien évidemment dans RTL Foot. Juste après, on refait le match présenté par Christian Olivier dès 18h30.
Et ce soir, aux côtés de Christian Olivier, il y aura Florian Gazan. On va mettre le pied sur le palon avec lui. Merci Agnès.